à 23 pas.
L'énigme du clou chinois aux portes des ténèbres.
Du mystère. Balade à travers le polar, la science-fiction et l'aventure, hors des sentiers battus. À 23 pas du mystère.
Auditeurs de Calanma Radio, bonjour, vous écoutez à 23 pas du mystère, votre émission mensuelle consacrée au polar et à la science-fiction. Nous sommes à l'émission de la fin de l'hiver, j'aime bien me poser sur les saisons pour nous orienter. On va toujours, comme à notre habitude, demander au maître de ces lieux, l'ami Jérôme, de quoi nous allons parler aujourd'hui. Jérôme, bonjour Miss Lehmann, excusez-moi.
Bienvenue à tous, bonjour Patrick, bonjour Miss Lehmann.
Bonjour à vous.
Eh bien, ce mois-ci, pendant que nos auditeurs en vacances glissent avec insouciance sur les pistes de ski, alors risques et périls, nous, à 23 par nuit mystère, avons choisi de consacrer notre émission à des compléments, à des dossiers ouverts dans nos précédentes émissions. Puisqu'on n'en a jamais fini d'épuiser un sujet. Et donc, d'une part, je vais vous présenter un pastiche un petit peu particulier d'Arsène Lupin, que j'ai découvert récemment. Ensuite, nous retournerons dans l'Angleterre de la fin du 19e siècle pour faire la connaissance d'un successeur de Sherlock Holmes. Ensuite, notre partie chronique sera également une suite de précédentes chroniques, en majeure partie, parce que Geek Patrick va terminer sa présentation de l'œuvre d'Isaac Asimov.
Oui, tout à fait.
Miss Lehmann va revenir en détail sur l'œuvre du jockey romancier Dick Francis.
Eh oui.
Ah oui, encore lui.
Ah ben, d'accord. On fait les devoirs pendant
les
vacances.
On est dans les suites et fins aujourd'hui.
Mais nous aurons quand même un peu d'inédit avec l'arrivée d'un nouveau chroniqueur qui n'est pas tout à fait un inconnu puisqu'on a déjà eu l'occasion de l'accueillir à plusieurs reprises, Nicolas Verdant, notre ami suisse.
L'ami Nicolas.
Que nous sommes ravis d'accueillir dans notre petite équipe qu'il vient donc renforcer pour les chroniques.
Tout à fait. Bienvenue.
Bienvenue Nicolas.
Voilà, c'est parti pour une petite heure à 23 pas du mystère.
À 23 pas du mystère.
Calade, ma radio.
Alors, pour commencer ces compléments d'information à nos dossiers, je vous rappelle que dans nos émissions des mois de mai et juillet 2025, il y a donc quelques mois, nous avions parlé des pastiches et adaptations des aventures d'Arsène Lupin. Donc un personnage, je le rappelle, inventé par Maurice Leblanc en juillet 1905. Eh bien, il se trouve que j'ai découvert récemment un pastiche en bande dessinée qui n'est signalé dans aucune étude sur le personnage que j'ai pu consulter.
Pourtant, t'as fouiné, c'est mieux qu'on puisse dire.
En particulier, la biographie de André-François Ruault, parue en 1996, qui est assez complète. Et puis le site « Tout Arsène Lupin ». Qui détaille un certain nombre de pastiches d'Arsène Lupin.
C'est un site internet, tu veux dire ?
C'est un site internet, oui. D'accord. Tout Arsène Lupin, qui ne mentionne pas la bande dessinée dont je vais vous parler.
Tu es trop fort.
L'intérêt de notre émission.
Bravo.
Voilà.
Bravo.
Alors, c'est un épisode de la vie du gentleman cambrioleur qui est un peu dérangeant, je vous préviens.
Ouais, chouette.
Et c'est ce qui explique sans doute qu'on l'ait passé sous silence. Mais à 23 pas du mystère, nous ne reculons devant rien pour faire triompher la vérité.
Exact.
Et donc vous allez tout savoir sur cette bande dessinée. Tenez-vous bien. Donc c'est à la fois un pastiche érotique.
Ah, voilà, ça devient intéressant.
Et une adaptation en bande dessinée, donc ça combine les deux.
Ça date de quand, là ? Je casse peut-être ton déroulé.
Alors, j'allais le dire plus tard, mais je peux dire tout de suite que c'est des débuts des années 1980.
D'accord, oui, donc il n'y a aucune raison pour laquelle il ne soit pas présent à la fois sur le site internet et dans le bouquin
que tu as cité
à l'heure.
Tout à fait.
D'accord.
Donc, dans cette adaptation, Arsène Lupin, dont on connaît bien le penchant pour les jolies femmes.
Ah bah oui, bien sûr.
C'est une constante.
Gentleman, comme on dit.
Eh bien, figurez-vous qu'il est devenu l'amant d'une certaine Jacula Velenska.
Qu'est-ce que c'est que ça ?
Qui est non seulement une belle femme, mais également une vampire.
Oui, une vampire, bien sûr.
Oui, quand même.
Et donc, Conséquence, notre Arsène est devenu un vampire.
Ah bon,
carrément. C'est terrible ça. Ouais.
Incroyable.
Mais ça ne s'arrête pas là, parce que en consommant sans doute du sang de mauvaise qualité, eh bien, il a été atteint par la gangrène et a dû être amputé des deux jambes. Le voilà en fauteuil roulant, notre pauvre Arsène.
Imagination, l'auteur là,
ah, ouais.
N'est-ce pas?
Waouh.
Alors, ces malheurs ne s'arrêtent pas là. On continue. Poursuivi par la police, Jacula et Arsène Lupin ont quitté la France et se sont réfugiés en Italie. Aussitôt arrivé, Jacula se met en quête de sang de vierge pour tenter de sauver son amant dévoré par la gangrène.
D'accord.
Alors, après bien les péripéties dont je vous fais la grâce, eh bien, Jacula amène une jeune vierge à Arsène qui n'en fait qu'une bouchée, dans une scène un peu horrifique.
Qu'est-ce que tu nous as trouvé?
Mais
oh mon Dieu.
Malheureusement, ça ne suffit pas à stopper la gangrène.
Il en faut une autre.
Heureusement pour eux, ils apprennent qu'un célèbre chirurgien spécialisé dans les greffes est actuellement à Rome. Et donc, Jacula utilise ses charmes pour en faire son esclave. Et elle le vampirise, tout simplement.
Ça, c'est bien.
Et puis, il se procure le corps d'un jeune homme à la morgue. Et alors, le docteur Bertrand, c'est le nom du chirurgien, il va transplanter, accrochez-vous bien, il va transplanter le cerveau d'Arsène Lupin dans le corps du jeune homme.
Trop cool.
Voilà.
Et donc, pour un tour,
notre gentleman cambrioleur est remis sur pied et ressuscité en même temps. Parce que le corps était à la morgue.
La morale de l'histoire, par contre.
Ça ressemble un petit peu à ton petit fantôme, là, ton héros de petit format qui traversait, qui avait toutes sortes de choses.
Oui, tout à fait. Alors voilà notre Arsène Lupin de nouveau fringant, qui entraîne l'admiration de sa maîtresse, donc admiration qu'elle lui témoigne par les moyens que vous imaginez, dans des scènes suggestives. Mais leur bonheur est de courte durée, puisqu'ils découvrent que dans le processus de transplantation, eh bien, Lupin a perdu ses pouvoirs télépathiques.
Ah, parce qu'il avait aussi
effectivement, Lupin est télépathe, et je cite, il envoie de violentes sensations érotiques directement au cerveau de Jacula lorsqu'ils font l'amour.
Mais est-ce que c'était pas un trait de ses pouvoirs de vampire, le pouvoir télépathique? C'était peut-être parce qu'il était vampire. Or là, s'il est dans le
non,
dans
il
corps
était,
du jeune...
Non, il était télépathe avant d'être vampire.
Ah, il était télépathe avant d'être vampire.
Ouais, tout à fait.
C'est bien compliqué ton histoire.
Alors, pour Jacula, ce n'est plus aussi bien qu'avant, hein, vous comprenez.
Ah oui, évidemment.
Et donc, notre bel Arsène, complètement déprimé.
J'ai perdu tous mes pouvoirs en échange de ce corps stupide. Je rêvais de devenir un jour le maître du monde et je possédais les moyens pour y parvenir. À présent, je suis comme tous les autres, un mouton parmi le troupeau.
Alors, Jacula tente de le réconforter.
Ne dis pas ça, Arsène. Même sans tes pouvoirs télépathiques, avec ton intelligence, tu seras toujours un dominateur. Quant à ce corps, il n'y a pas une seule femme qui ne le désirerait pas.
Et malgré cela, eh bien, notre pauvre Arsène se suicide se pendant par la fenêtre. C'est-il pas terrible?
Ok. Ouais.
Parce que ce qu'ignorait Jacula avant la transplantation, c'est que le jeune homme dont ils ont utilisé le corps, il s'est pendu de la même manière. Et c'est pour ça qu'il était à la morgue.
D'accord.
Et ça ne s'arrête pas là. Figurez-vous que ce jeune homme, qui était-ce? Le petit-fils d'Alfred Krupp, le célèbre industriel allemand qui a ses aciéries, que Jacula appelle un marchand de canons, d'ailleurs.
Putain, mais c'est n'importe quoi, cette histoire.
L'histoire ne s'arrête pas là, parce que Jacula décide de se rendre en Allemagne pour y rencontrer la famille Krupp.
Elle a raison.
Et là, j'arrête de spoiler davantage cette histoire trépidante et pour vous laisser découvrir la suite.
Il y a encore beaucoup d'aventures.
Il y a une suite.
Ouais. Ah,
mais
d'accord.
Attends, mais quel rapport avec Arsène Lupin dans tout ce truc?
Alors, j'y viens. Donc, cet épisode, c'est une bande dessinée d'origine italienne qui a été en partie traduite en français. Les événements que je vous ai racontés se trouvent dans l'épisode intitulé « Arsène Lupin tel qu'en lui-même », paru dans le pocket Super Diabolique des éditions Elvie France, paru en janvier 1983. Ce sont 88 planches en noir et blanc qui détaillent toute cette histoire. Et alors, pour répondre un peu à ta question, Patrick, pour finir, eh bien, en fait, moi-même, j'ai un petit doute sur la présence réelle d'Arsène Lupin dans la version originale de cette bande dessinée. Pour deux raisons principales. C'est d'une part que l'action se déroule plutôt au 19e siècle, puisqu'on a des voitures hippomobiles et non pas des voitures à moteur. Or, l'univers d'Arsène Lupin, c'est la belle époque avec les voitures à moteur.
Totalement.
Et deuxièmement, ben, parce qu'Arsène meurt à la fin de cette aventure, et donc on ne pourrait pas le retrouver dans les suivantes.
Totalement.
Et donc, l'hypothèse, c'est que le nom d'Arsène Lupin a été utilisé par un éditeur sans scrupules, qui aurait changé le nom du personnage d'origine. Hein, ça, c'est des cas qu'on a vus, qu'on connaît avec d'autres personnages. On se sert en français d'un autre personnage qui n'était pas là dans la version italienne. Voilà, pour abuser des crédules comme vous et moi.
Bah voilà.
C'est pas très beau.
Il a dû rentrer dans le domaine public, le nom d'Arsène Lupin, donc on peut l'utiliser comme on veut, on n'a plus de problème avec les ayants droit. Parce que 70 ans après la mort de Maurice Leblanc, je ne sais pas quand il est mort.
Mais peut-être qu'en Italie, il s'appelle Alfredo.
En 1941, il est
décédé. Ah, quoi que 70 ans, 41.
Dans le genre de bande dessinée, on ne s'encombrait pas tellement de ces scrupules. En tout cas, c'est une hypothèse.
Que d'émotion.
Qu'il va falloir qu'on creuse, et donc une enquête va être ouverte, et on vous tiendra au courant des suites de cette affaire trépidante.
On compte sur toi.
Alors, pour nous remettre de tout cela, on va écouter un peu de musique, n'est-ce pas ? En vous proposant un complément, lui aussi, en musique. C'est une chanson qu'on avait prévue pour conclure notre émission du mois de janvier, qu'on n'a pas eu le temps de passer. Donc, on la recycle.
Le roi du recyclage, Jérôme.
On la recycle à présent, en écoutant notre chanson.
Tire d'elle et sur les toits de mon ennui coule la pluie. Où sont parties les caravelles volant mon cœur, portant mes rêves vers ton oubli? J'aurais voulu que tu reviennes comme jadis, porter des fleurs à ma persienne et ta jeunesse en mon logis. De mes 20 ans, chagrin, mélancolie de n'être plus enfant, mais seule et loin de toi par les chemins.
Nous allons à présent changer d'univers. Après l'Italie, nous allons nous transférer en Angleterre, à peu près à la même période, sans doute, à la fin du 19e siècle. Donc je vous rappelle que, également dans des précédentes émissions, nous avons évoqué l'histoire de la littérature de détective en Angleterre. avec bien sûr Sherlock Holmes, mais aussi des détectives comme Richmond, Waters, deux femmes détectives que je vous avais présentées, G et Mrs. Paschal. Eh bien aujourd'hui, je vous propose de découvrir un successeur de Sherlock Holmes, qui est une femme détective, là encore, qui s'appelle Loveday Brooke. Alors, cette Loveday Brooke, elle apparaît en février 1893.
Attends, Loveday, c'est son prénom. Je suis désolé. Hein,
c'est bon. Son prénom.
D'accord, Loveday, quel drôle de prénom.
Mais voilà. C'était pas elle qui chantait, je tiens à le dire.
D'accord.
C'est pas elle.
Oui, parce que tu nous as même pas dit qui a chanté.
Pas dit, quel
scandale. C'était pas gentil, pas Jacula, quand même, qui chantait.
Non, j'espère pas elle. Alors, attendez, je répare ça tout de suite.
Son organisation.
C'était la chanson Refrain. Oui. De la chanteuse suisse Lys Assia, qui a remporté le premier concours Eurovision de la chanson en 1956 à Lugano.
Merci de cette précision, Patrick. Et revenons à notre ami Loveday.
Retournons en Angleterre. Donc Loveday apparaît en février 1893 et elle est l'héroïne de 7 nouvelles qui sont publiées jusqu'en 1894 et qui vont être ensuite rassemblées dans un recueil qui s'appelle « Les expériences de Loveday Brooke, Lady Detective ». Et donc, si on la met un peu en perspective, eh bien, elle est contemporaine de Sherlock Holmes, puisqu'à la même période, Conan Doyle fait paraître la deuxième série d'enquêtes de Sherlock Holmes qui vont être rassemblées dans le recueil qui s'appelle « Les mémoires de Sherlock Holmes ».
Donc une concurrente directe.
Donc là, elle est vraiment contemporaine, elle est, et concurrente, bien qu'ils ne se croisent pas dans leurs enquêtes. Ça aurait été peut-être intéressant de voir les personnages se croiser. Donc ce personnage est créé par une romancière qui s'appelle Catherine Louisa Perkis, née en 1839 et morte en 1910. Donc, qui a écrit un certain nombre de romans et de nouvelles, et puis ensuite qui s'est consacré à la défense des animaux.
Hein, d'accord.
En s'engageant notamment en luttant contre la vivisection.
Wow.
Et en créant une organisation de défense des chiens. Elle est surtout connue pour ça. Une seule nouvelle de ce cycle a été traduite en français. Mm-hmm. C'est la première, un sac qui s'appelle Un sac noir sur le seuil, qui a été publié dans une anthologie par François Rivière, écrivain et anthologiste bien connu. Et donc ça, c'est intéressant pour nous parce que ça va nous permettre de vous présenter le personnage.
Loveday Brooke avait un peu plus de 30 ans. On ne saurait mieux la dépeindre que par une série de négations. Elle n'était pas grande et pas petite non plus. Elle n'était de complexion ni brune ni blonde, elle n'était ni jolie ni vilaine. De même pour sa physionomie, que l'on ne saurait décrire. Elle était invariablement vêtue de noir et son attitude élégamment collet monté avait quelque chose de puritain. 5 ou 6 ans plus tôt, Loveday s'était retrouvée par un retour de fortune confrontée à une exigence sans argent et sans amis. Elle avait découvert qu'elle n'avait aucun talent particulier et c'est pourquoi elle avait sur le champ défié les conventions en choisissant une profession qui l'avait définitivement coupée de ses anciennes relations et de la position qu'elle avait occupée dans la bonne société. Pendant quelques 6 années, elle avait patiemment œuvré dans les aspects les plus modestes de sa profession. Le hasard, ensuite ou, pour être plus précis, une affaire criminelle compliquée, lui avait fait rencontrer le patron expérimenté de la florissante agence de détective de Lynch Court. Celui-ci avait rapidement compris de quel bois elle était faite et l'avait dirigée vers des missions de meilleur aloi, des enquêtes en réalité qui leur avaient rapporté, à lui et à Loveday, une notable amélioration de leurs revenus et de leur réputation. Ebenezer, d'ailleurs, avait parfois des élans d'éloquence lorsqu'il s'agissait des qualités de Miss Brooke dans la profession qu'elle avait choisie. « C'est bien trop pour une lady, disiez-vous » répliquait-il à quiquelque se hasardait à remettre en question les dites qualités. « Peu m'importe qu'elle soit ou non une lady, tout ce que je sais, c'est que c'est une femme la plus méthodique et la plus raisonnable que j'ai jamais connue. D'abord, elle possède la faculté si rare chez les femmes d'appliquer des instructions à la lettre. Ensuite, elle a un cerveau bien ordonné et perspicace, ce qui n'est en rien encombré par les théories pures et dures. Enfin, et c'est le point le plus important, elle a tellement de bon sens qu'elle en frôle le génie. » Merci pour le compliment pour les femmes.
Ne rions pas.
Alors maintenant qu'on a fait connaissance avec ce personnage, on va regarder un peu ses méthodes professionnelles. On remarque d'abord que ses enquêtes elles se déroulent la plupart en dehors de Londres. Bien que le bureau de son patron soit à Londres, les enquêtes commencent dans son bureau en général, où Mr. Dyer, donc Ebenezer Dyer, lui confie une mission en lui donnant des détails, en l'informant des détails. Et puis, c'est souvent d'ailleurs la police officielle qui vient demander son aide à l'agence de police privée.
Et le boss s'appelle Ebenezer, son prénom. Voilà, c'est j'adore le prénom.
Ouais, j'ai trébuché là-dessus parce que c'était un petit peu surprenant.
Alors Love Day et Ebenezer.
Voilà. Et donc, ce système où la police officielle vient demander à la police privée son aide nous rappelle bien sûr les enquêtes de Sherlock Holmes, qui débutent pour la plupart au 221B Baker Street, et où souvent un inspecteur, Lestrade ou un autre, vient demander son aide à Holmes sur un cas particulièrement compliqué. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que Loveday, donc ensuite Loveday va partir mener son enquête, et à ce moment-là, on n'entend plus parler de son patron, ni d'autres agents de l'agence de détective. Elle travaille seule en général, et elle cache sa qualité de détective. Elle ne s'annonce pas comme un détective,
incognito.
Elle préfère travailler incognito, tout à fait. Les enquêtes qu'elle mène concernent plutôt des vols de bijoux, de chèques, des cambriolages ou des disparitions de personnes et rarement des meurtres, un seul meurtre en fait, dans l'ensemble des nouvelles dans lesquelles elle enquête. Ce qui est en fait une particularité, c'est que à l'époque, on avait une variété de crimes, de délits beaucoup plus larges, et qu'au XXe siècle, on s'est spécialisé dans le meurtre, ou qui dit enquête policière, c'est enquête criminelle sur un meurtre, tandis qu'à l'époque, c'était beaucoup plus vaste. Alors, Loveday, dans ses enquêtes, elle n'utilise pas les méthodes classiques, que sont la recherche d'indices ou l'interrogatoire de témoins. Elle va utiliser surtout son sens de l'observation, qui lui permet de repérer des détails qui la mettent sur la piste de la solution, et qui habituellement sont cachés au lecteur jusqu'à la fin. Il n'y a pas de notion de fair play dans ces nouvelles-là.
Ah d'accord, ok, c'est la surprise à la fin.
Voilà, et il y a une révélation finale qui vient ébahir le lecteur, parce que notamment on lui a caché des éléments. Alors son comportement de ce fait paraît souvent un peu étrange aux personnes qu'elle côtoie, parce qu'elle n'enquête pas de la manière dont elles s'attendent. Et c'est une bizarrerie qu'on attribue généralement au fait qu'elle est une femme détective, et donc elle n'enquête pas comme ses collègues masculins.
Les femmes, mais elle suit à la lettre les instructions, contrairement à bien des femmes,
je confirme.
Alors souvent elle va s'intéresser à des sujets qui vont sembler secondaires, anodins ou sans rapport, mais on va s'apercevoir qu'elle suit son idée différente de la solution apparente qu'on lui propose. Alors, par exemple, dans une enquête qui est la sixième enquête, le fantôme de Fountain Lane, on vient lui demander d'enquêter sur un vol qui s'est déroulé dans un village, donc on s'attend à ce qu'elle parte tout de suite pour aller enquêter dans ce village. Eh bien non, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se rend à un office religieux. Donc ça paraît complètement
étrange.
Mais à la fin de l'histoire, eh bien, on va découvrir que lors de cette cérémonie, eh bien, elle a pu recueillir des éléments pertinents pour l'enquête et qui vont lui permettre de découvrir la solution.
Mais en fait, tu dis donc que, elle fonctionne comme ça, mais elle n'en dit rien jusqu'à la fin du roman.
Voilà.
Mais est-ce que c'est pas un petit peu ennuyeux d'attendre la fin du roman pour avoir tout ça?
Non, parce qu'il y a un élément.
Comment elle arrive à meubler
l'autrice? Elle fait quand même d'autres choses qu'elle fait. Elle rencontre des gens.
Parce que Sherlock Holmes, lui, il faisait son kéké en permanence avec Watson, donc comme ça, on était au courant, quoi.
Tout à fait. Mais là, on n'a pas de Watson qui l'accompagne.
D'accord.
C'est une manière de se démarquer, en fait.
Ouais, d'accord, mais ça doit appauvrir un peu la lecture. Enfin, je sais pas.
Non, ça reste intéressant, mais dans un genre différent, ouais.
Très bien.
Alors, il y a aussi le fait qu'elle soit une femme qui a son importance dans les enquêtes, parce que, d'une part, elle parvient facilement à s'introduire dans les habitations où on a eu des vols, des cambriolages, sans attirer l'attention, parce que les hommes de la bonne société ne remarquent pas des femmes qui ne sont pas de leur rang social. Et ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà remarqué.
Tu nous l'avais déjà dit sur une autre
héroïne. Voilà, plus avant, dans nos deux détectives des années 1860.
Ouais, tout à fait.
Bah là, on est 30 ans plus tard, et c'est toujours la même chose dans la société victorienne. Donc, on a un petit élément de critique de cette société-là. Et autre élément, dans une nouvelle qui s'appelle « La congrégation de Red Hill », qui n'a pas été traduit en français, eh bien, on suspecte un ordre religieux de commettre des cambriolages. Mais une observation va permettre à Loveday de les innocenter, c'est qu'elle voit une des religieuses soulever avec délicatesse un des enfants dont l'ordre s'occupe. Et à ce moment-là, elle se dit que Une criminelle n'aurait jamais eu un geste pareil. Et donc, c'est pas possible que ce soit elle qui cambriole.
Oui, c'est quand même assez fin comme, voilà. comme élément.
Serait-ce enfin... qu'on appelle l'intuition féminine ?
Non, pas, c'est une observation. C'est pas de l'intuition ici. C'est une observation des comportements.
Ouais, bon, voilà, c'est un petit peu.
Ça peut être remis en question quand même.
Très convaincu.
Ouais, ouais. D'accord. Non, mais ça fait partie de l'intrigue, c'est bien.
Alors,
d'accord.
Dans ces enquêtes, il n'y a pas du tout d'aspect sentimental. Bien qu'on ait une femme comme héroïne, il n'y a pas d'aspect sentimental. Il n'y a pas de.
Après, si elle est toute seule, ça n'a
pas d'intrigue
évident.
Amoureuse, tu
n'est pas, ouais, voilà. Voilà, elle n'est pas courtisée et elle-même n'est pas attirée par un personnage masculin qu'elle peut rencontrer. On a peu d'éléments sur sa vie privée, sur sa famille, d'éventuels amis, loisirs. Et on a plutôt un personnage détective qui est entièrement, qui se consacre entièrement à son métier.
Après, c'est intéressant parce que ça veut dire que l'autrice, elle a vraiment pensé aussi, justement, par cette solitude, à éviter un peu tous ces poncifs dans lesquels elle aurait peut-être été contrainte de tomber les
intrigues
amoureuses.
Tout à fait, parce
que
si on a une femme,
trucs.
On va se dire, il y a une voilà. Partie de romance. En
exactement.
Plus, il y a toute la littérature à destination ouais. Des femmes qui.
Et comme elle est seule, bah non. Il n'y a pas d'occasion, ouais. Donc c'était assez malin de sa part.
Et elle reste en plus célibataire tout au long de ses enquêtes.
Et est-ce qu'elle use du fait qu'elle est femme pour...
Pas du tout, en fait, voilà. C'est ouais, très neutre,
pour,
c'est un personnage
cherche pas à tirer
neutre.
Profit
voilà, pour avancer
de,
à ses
de
fins,
son sexe faible.
Non, pas du tout, et
d'accord.
Donc c'est
d'accord.
Un personnage assez neutre qui est vraiment dans son métier.
Et on voit bien dans la description fait. Qu'on a fait Miss Lemon au départ, c'est pour ça que j'ai rigolé, elle est ni jolie, elle est ni belle, elle est ni grande. Et
voilà, c'est ça, elle a un aspect assez quelconque.
Le passe-muraille, quoi, en quelque sorte, au féminin.
C'est quelconque qui lui permet de passer. Voilà, et bien on espère que ça vous a donné l'envie, même à Patrick, de découvrir ce personnage.
À 23 pas du mystère.
Calade, ma radio.
Eh bien, il est temps de passer à nos chroniques, à notre partie chronique de l'émission. Donc, nous avons le plaisir d'introduire aujourd'hui un nouveau chroniqueur. Donc, j'en ai parlé en introduction, c'est Nicolas Verdant.
Le
donc,
petit Nicolas.
pas subtil. qui donc est déjà intervenu dans notre émission et qui là...
C'est un romancier.
Qui est romancier, Suisse, qui est journaliste.
Écrivain de romans policiers qu'on avait reçu donc, en mai ou juin dernier
voilà,
à ce titre-là.
On aura sûrement l'occasion de parler de sa production littéraire. Ici, il se fait chroniqueur de différents romans qu'il a choisis. Et donc, dans cette chronique, il va nous parler de romans policiers qu'il affectionne. C'est des titres qu'il aime bien. Et dans une à partir d'une perspective assez originale, c'est-à-dire qu'il va partir d'une scène où se trouvent des automobiles, une ou plusieurs automobiles. Et à partir de ces voitures, en fait, qu'il va détailler, il va les remettre en contexte et nous parler, nous introduire ainsi dans le roman et voir quelle importance ces voitures-là ont, soit pour les personnages, soit pour le roman. En général. Qu'en pensez-vous de ce genre de...
Je trouve ça génial.
Voilà.
Oui, parce qu'en fait, moi je parle du textile, mais il y a énormément de livres qui parlent d'automobile. L'autre fois, dans Dick Francis, je parlais que les jockeys avaient des
bien
voitures
sûr,
de sport
super. C'est une dimension importante, je pense.
James
oui,
Bond,
c'est une super
on
n'en
parle pas, donc c'est vraiment une bonne idée.
La fille apparut brusquement dans le champ lumineux de mes phares, agitant ses deux bras comme une marionnette. Et je lâchai une bordée de jurons qui me laissa les oreilles bourdonnantes. Je donnai un grand coup de volant, sentis l'arrière de ma voiture partir allègrement vers le bord de l'abîme, poussai à fond la pédale de l'accélérateur et freinai aussitôt, histoire de ne pas aller m'aplatir contre la falaise. La voiture s'immobilisa finalement en travers de la route. D'une façon ou d'une autre, j'avais réussi à contourner la fille. Je desserrai mes doigts crispés sur le volant et me livrai sans résistance au tremblement convulsif qui me secouait des pieds à la tête. J'étais en train de penser à toutes les choses que j'aimerais dire ou faire, à toutes les dindes sans cervelle de la création, lorsque ma portière s'ouvrit, se referma. « Merci, monsieur, » murmura la fille, en s'installant auprès de moi.
Alors, les polarophiles auront reconnu le début du roman de Mickey Spillane, « Eye the Jury », qui est la première apparition du détective privé hard-boiled Mike Hammer. C'est lui qui parle, dont on reconnaît le monologue. Et j'y avais également inclus dans cet extrait eh bien, un court extrait de l'adaptation au cinéma par Robert Aldrich, qu'il a fait sous le titre « Kiss me deadly, embrasse-moi mortellement », qui est devenu en français « En quatrième vitesse ».
Ouais, d'accord.
Voilà. Alors, place maintenant, après cette introduction, eh bien, à la chronique de notre ami Nicolas.
Virage à la corne. Une chronique de Nicolas Verdun.
Alors aujourd'hui, on vous emmène sur les départementales de Normandie dans les années 50 du siècle dernier, avec Jean Amila et les bouilleurs de crue. On ouvre son roman Jusqu'à plus soif par une scène qui dit déjà tout. Une jeune institutrice arrive dans un village perdu de Normandie. Le curé vient la chercher en voiture, mais une voiture attelée à une jument. Une voiture hippomobile comme au 19e siècle. Et quelques pages plus loin, surgissent les premières automobiles. D'abord une camionnette Peugeot 203 bâchée, chargée de fûts d'alcool clandestin. La Peugeot 203, lancée en 48, c'est la première voiture entièrement nouvelle de la marque au Lyon après la guerre. Robuste, simple, omniprésente dans cette France des années 50. On la voit partout, chez les artisans, les paysans, les petits commerçants. En version utilitaire, bâchée, c'est un vrai mulet. Derrière elle, une voiture de contrôleur, ces fonctionnaires qui dépendent du ministère des Finances, qui tentent de la prendre en chasse. Il s'agit d'une Ford Vedette. La Vedette, produite à partir de 48 par Ford SAF en France, était une berline haut de gamme au style américain utilisée dans les années 50, y compris parfois par les forces de l'ordre, comme ici. On est très loin des courses-poursuites américaines sur les highways de Beverly Hills ou de Los Angeles. Ici, les routes sont étroites, boueuses, bordées de haies épaisses, et la poursuite tourne vite à la farce. L'auteur de ce roman s'appelle Jean Amila, c'est un pseudo. Son vrai nom est Jean Meckert. Né en 1910 à Paris, mort en 1995, il a mené une double carrière. Romancier reconnu sous son nom et auteur de romans noirs dans la série noire. Toute son œuvre est marquée par une sensibilité libertaire, méfiante envers l'ordre, la police, les institutions. Et cela se sent dans Jusqu'à plus soif. Le roman raconte l'arrivée donc d'une jeune institutrice dans un village où tout le monde distille clandestinement de l'eau de vie. Curés, gendarmes, paysans, tout le monde ferme les yeux. Les enfants boivent du calva à la récréation, le pommier gouverne. Derrière la farce, il y a le drame, l'alcoolisme, la misère, les noyades, les vies brisées. Mais au cœur du roman, il y a aussi autre chose, la route, les véhicules, les convois d'alcool, les poursuites. Presque un road polar rural, on pourrait dire. La première grande scène automobile du livre est une poursuite entre la Peugeot 203 bâchée et la Ford Vedette des contrôleurs. Et la camionnette, elle transporte 600 litres d'alcool. Elle roule à l'estime, le conducteur la tête passée par la vitre pour voir derrière lui. Et puis, les voitures quittent la route pour entrer dans un pré. Un verger de pommiers centenaires avec des vaches affolées entre les phares. Les moteurs hurlent, les bêtes meuglent, les hommes sautent de leur siège. 60 à l'heure dans un terrain défoncé, c'est déjà une performance. Mais les policiers ne connaissent pas le terrain. Après un dos d'âne, la Vedette arrive trop vite. La voiture plonge dans une mare, le moteur se noie. L'eau entre dans l'habitacle, on entend des glouglous sinistres. Pendant ce temps, les bouilleurs remettent les barrières en place et repartent calmement. Plus loin dans le roman, on croise d'autres voitures typiques de cette France de l'après-guerre. Il y a bien sûr une Citroën Traction avant. La fameuse Traction lancée en 34, c'est la grande berline moderne de l'avant-guerre, carrosserie monocoque, roue avant motrice, tenue de roue exceptionnelle. C'est la voiture des notables, des policiers, mais aussi des gangsters. Dans le roman noir, c'est presque une icône. Et dans Jusqu'à plus soif, une Traction finit très mal, transformée en piège mortel, puis servant d'auto-tamponneuse. Il y a aussi la Peugeot 203 du juge. La même 203 que la camionnette, mais en version berline. Une voiture solide, respectable. La voiture des classes moyennes, des médecins, des magistrats dans les années 50. Et pourtant, elle aussi finit détruite, prise dans une fusillade. Même la voiture de l'autorité n'est pas à l'abri du chaos. Et puis apparaît la voiture du futur, la Citroën DS, la fameuse DS. L'ancien 55. La DS est une révolution. Ligne aérodynamique, suspension hydropneumatique, direction assistée, freinage assisté. Une voiture futuriste, presque spatiale, qui symbolise la modernité triomphante des Trente Glorieuses. Dans le roman, elle est noire. C'est la voiture des gangsters, celle qui ouvre la route du convoi. Rapide, élégante, insaisissable. On est là à un carrefour historique. D'un côté, les véhicules rustiques, camionnettes 203, camions berliers, traction d'avant-guerre. De l'autre, la DS, voiture du futur. Car les bouilleurs s'organisent en véritable convoi. Deux camions berliers de 4 tonnes chargés chacun de 40 hectolitres d'alcool à près de 100 degrés. Berlier, c'est le grand constructeur de poids lourds français, symbole du transport routier d'après-guerre. Des camions robustes, lents, puissants, faits pour la charge plus que pour la vitesse. Devant eux, la DS ouvre la route. Les chauffeurs communiquent par radio. Ils ont une carte Michelin neuve sur laquelle ils tracent l'itinéraire au crayon rouge. Ils se rendent à Paris pour livrer leur cam. Mais les vitesses racontent une autre époque. 40, 50, 65 km/h. 70 dans la forêt, c'est déjà énorme. Un convoi roule à la vitesse de son véhicule le plus lent. Et l'un des chauffeurs se dit que s'ils gagnent assez de fric, ils pourront un jour s'acheter de meilleures voitures. La modernité est encore une promesse. Dans une autre scène, pour échapper à la police, les gangsters ouvrent l'arrière du camion et laissent tomber les fûts sur la chaussée. Les tonneaux rebondissent, roulent, éclatent. Ils vident leur cargaison, mais ils bloquent la route. Une barricade faite d'alcool. Bien sûr, Jusqu'à plus soif ne se réduit pas aux voitures. C'est un roman sur les ravages de l'alcoolisme dans les campagnes françaises, sur une institutrice qui tente de sauver ses élèves, sur une communauté entière qui vit dans la gnôle. Mais les voitures sont au cœur du dispositif. Elles structurent l'action, elles rythment le récit, elles révèlent les rapports de force. La camionnette des bouilleurs connaît les chemins, la vedette de la police s'embourbe, l'attraction finit criblée de balles, la 203 du juge qui sert de couverture à l'homme qui veut faire taire un mouchard est criblée de balles elle aussi, et la déesse noire file vers l'avenir. Dans ce roman, la voiture n'est pas un symbole de liberté, c'est un outil social, un instrument de contrebande, une arme, parfois un piège. Et au fond, dans Jusqu'à plus soif, ce n'est pas seulement la forte vedette qui finit dans la mare, c'est toute une idée de l'ordre et de l'hygiène sociale qui s'enlise dans la boue des routes normandes.
Alors, si Guy Patrick a fini son petit verre de gnôle, il va pouvoir assurer sa chronique, on espère, qui tient encore debout.
La gnôle intersidérale.
Allez, la chronique de Guy Patrick.
La chronique de Guy Patrick.
Bon, pendant que Geek Patrick écluse, je vais faire un petit rappel.
Geek Patrick ne boit pas d'alcool.
Ce qui permettra de lui se mettre les idées en place.
Quasiment
alors,
pas.
Dans le précédent épisode, tu nous as parlé du classique de la SF, qui est le cycle de fondation d'Isaac Asimov.
Oui.
Donc, rappelons que ce cycle a démarré avec une trilogie parue de 1951 à 1953, Fondation, Fondation Empire, Seconde Fondation, qui sont des romans basés sur des nouvelles parues entre 1942 et 1950. Ce cycle raconte la chute d'un empire galactique et les moyens mis en œuvre pour le faire renaître, notamment grâce à une nouvelle science appelée psychohistoire, qui utilise l'analyse statistique associée aux connaissances sur la psychologie humaine et les phénomènes sociaux pour prévoir l'histoire. On est quand même loin de la Normandie et de ses barriques d'alcool clandestin.
Tout à fait.
Cette trilogie était complétée 30 ans après, à partir du début des années 80, donc toujours 1900, jusqu'à 1993, par 4 nouveaux titres, dont 2 forment un préquel, c'est-à-dire un événement antérieur. Prélude à Fondation en 1988 et L'aube de Fondation en 1993. Le mois dernier, donc là on va...
Bon, elle a fait une petite erreur.
Patrice nous a présenté la trilogie originelle, ainsi que les 2 préquels.
Ouais,
alors,
j'ai bien travaillé le mois dernier.
Alors, de quoi vas-tu pouvoir nous parler aujourd'hui? Parce que là, tu as déjà dit beaucoup de choses.
Ouais, tout à fait. Mais là, il nous reste quand même les 2 séquelles à évoquer. Okay. Ceux écrits dans les années 80 et qui se positionnent après la trilogie de Fondation. Donc, il y a 2 romans, Fondation foudroyée, puis... Terre et Fondation.
Alors moi, j'aimerais savoir pourquoi Asimov a décidé dans les années 80 de prolonger son œuvre majeure et d'ajouter ces 2 préquels et les 2 séquelles dont tu vas nous parler rapidement juste après.
Non, pas rapidement, longuement.
Ah bon, longuement.
Non, mais oh,
ah bon, j'ai cru que tu résumais, moi.
Mais t'as raison, il est temps de répondre à cette question. La réponse à cette question est très simple. Souvenez-vous que dans le cycle des robots dont on a parlé en début de saison radiophonique, 3 des 5 romans du cycle avaient aussi été écrits dans les années 80. Et il est donc très probable que c'est dans les années 80 qu'Isaac Asimov a réalisé quelle devait être son grand œuvre, qui est le suivant: rassembler dans un univers cohérent l'ensemble de ses écrits et constituer cette toile de fond immense de plusieurs dizaines de milliers d'années de l'histoire d'une galaxie peuplée par les humains, avec l'aide de robots dont les humains se sont débarrassés et dont ils ont oublié jusqu'à l'existence même. Les 2 romans, les séquelles donc, qu'on va évoquer aujourd'hui, qui s'ajoutent au cycle de Fondation, qui suivent, ben, ils n'ont pas d'autres fonctions. Nous avons d'abord Fondation foudroyée, paru en 1982, qui remet une pièce dans la machine de Seconde Fondation, parce que voilà-t-il pas en effet que la première Fondation, qui domine la galaxie, se met à nouveau à suspecter la deuxième Fondation de ne jamais avoir disparu, de continuer à tirer les ficelles en secret, ce qui est bien évident, bien sûr, parfaitement exact. Tout le roman va s'articuler autour de la lutte entre Fondation et deuxième Fondation, jusqu'à l'apparition d'un troisième protagoniste absolument génial, Gaïa. Gaïa, c'est une planète, mais une planète douée de conscience. Tous les êtres vivants y sont liés télépathiquement et ils forment une conscience globale. D'où leur vient leur pouvoir incroyable ? Et ça, c'est trop fort. C'est un don que leur ont fait les robots il y a plusieurs milliers d'années. Nous y voilà, le lien est fait. J'en dis pas plus, il y a beaucoup de choses à découvrir dans ce roman très plaisant à lire, très asimovien, avec ses révélations finales en cascade. Donc là, je vous parlais du premier Fondation Foudroyée.
Alors juste une petite question, la télépathie, c'est pas parce qu'ils l'ont piqué à Arsène Lupin?
Non.
Non, ça n'a rien à voir avec Arsène Lupin.
Avec des scènes érotiques torrides, ouais, pas,
non,
du tout.
Voilà. Donc, pas du tout. Donc du coup, ça s'arrête là ton...
Et non, ça s'arrête pas là. Oh, Miss Lemon, d'accord. Elle suit pas en fait, elle
non,
m'écoute même
vrai,
pas.
Non, c'est vrai, moi je suis avec
Il en reste un deuxième.
Arsène Lupin, là.
Un deuxième dans le séquel. Donc on a vu Fondation Foudroyée, maintenant on va passer à Terre et Fondation, qui est le tout dernier roman de la saga, attention, hein, et qui est paru en 86.
Non mais là je suis désolée, je suis vraiment perdu, j'ai perdu.
C'est pas grave. Pour ta peine, je vais reprendre exceptionnellement une habitude détestable que j'avais réussi à supprimer. Je vais spoiler.
Oh, bah désolé alors.
Enfin, voilà. Je peux pas faire autrement en fait. Si je veux vous faire comprendre, auditeurs de Kalanma Radio, comment Isaac Asimov a atteint son objectif, qui était de lier son cycle des robots avec le cycle de Fondation, de mettre la touche finale à un univers à l'échelle de la galaxie, dans une histoire qui s'est déroulée sur plus de 20 000 ans. Êtes-vous prêts, messieurs, dames, pour le spoil ?
Oui, je crois c'est que là, on est résignés.
Très bien. Dans ce dernier volume, les héros de l'épisode précédent, Fondation Foudroyée, partent en chasse de quoi ? Eh bien, d'une planète qui s'appelle la Terre. Ce monde originel dont toutes les traces ont été effacées dans les archives de toutes les planètes de la galaxie. Ce monde dont le souvenir est réduit à des légendes présentes dans presque toutes les planètes de la galaxie. Mais dont l'existence même est niée la plupart du temps comme une sorte de conte folklorique pour les enfants. Et après quelques aventures spectaculaires sur deux mondes de la première expansion galactique, Aurora et Solaria notamment, et ça on fait référence à ceux qui ont lu le cycle des robots, ils reconnaîtront ça, eh bien nos héros finissent par trouver la Terre. Mais pas de bol, la Terre est vide de toute vie, elle a été cramée par la radioactivité. Et elle me dit, comment ça se fait ? Eh bien, vous n'avez qu'à lire le dernier roman du cycle des robots, Les robots et l'Empire, et vous saurez pourquoi. Car je n'avais pas spoilé à l'époque. Et donc, c'est sur la Lune qu'ils vont se retrouver, et ils vont faire une découverte explosive sur la Lune. Ils vont y être accueillis par le robot R. Daniel Olivo. Oui, 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 le même robot qui, 20 000 ans plus tôt, résolvait des énigmes policières dans les quatre romans du cycle des robots, avec l'enquêteur terrien Elijah Bailey. Quel suspense !
Ouais,
quel
rebondissement un peu à la façon d'Agatha Christie. Et oui. Bon, juste les robots durent quand même très longtemps.
Alors,
mais pas de pile, j'imagine.
Alors
mais...
déjà, rebondissement à Agatha Christie, t'as parfaitement raison, je l'avais noté déjà. Asimov, il est vraiment très Agatha Christie avec ses rebondissements finaux. Il aurait dû écrire des romans policiers, il en aurait vendu plus. Par contre, c'est une remarque très intéressante que tu as faite. Oui, Daniel, à 20 000 ans, en fait, il explique qu'il a changé en permanence ses pièces pour pouvoir survivre 20 000 ans. Il n'a plus aucune pièce d'origine de 20 000 ans avant, c'est évident. Hein. Alors, Daniel le robot donc veille depuis 20 000 ans sur la destinée des êtres humains. Son existence touche à sa fin, et c'est la petite troupe de ses visiteurs qui va lui apporter une solution pour obtenir un petit sursis de 300 ans. Juste le temps de s'assurer du succès de son dernier plan pour la survie de l'humanité dans la galaxie. Et donc, vous avez compris que ce plan, ce n'est plus le plan de Harry Seldon, le plan de la psychohistoire, car celui-ci aussi touche à sa fin. Ce plan, c'est... Vous pensiez vraiment que j'allais vous le dire ?
Non, mais tu spoil, mais tu dis pas ça quand même.
Quand même pas, non plus. Si vous voulez savoir, vous avez qu'à lire le cycle de Fondation et vous découvrirez ce plan génial. Allez, malgré toutes les critiques que j'ai faites sur ces romans, et encore j'en ai comment dire, je me suis censuré. Il n'y a qu'une conclusion possible à toutes ces chroniques. Chapeau l'artiste, chapeau Isaac Asimov pour ton rêve devenu légende.
La chronique de Geek Patrick.
Eh bien, c'est au tour de Miss Lemon qui va revenir sur un univers assez différent, celui de Dick Francis, dont elle nous avait parlé lors de l'émission du mois de novembre, si vous vous rappelez bien.
L'étoffe d'un héros. Alors, pour cette chronique, étant donné que nous sommes en février, je me suis inspirée du Nouvel An chinois, qui est donc cette année sous le signe du Cheval de Feu, et j'ai donc repris le chemin des hippodromes anglais, avec
trois... Voilà une justification bien tarabiscotée.
Mais oui, mais bon, il faut faire du lien, on fait du lien.
C'est bien.
Nous parlerons de trois héros de romans qui fréquentent le monde des courses. Donc j'ai deux romans de Dick Francis, comme l'a annoncé Jérôme. Donc je l'ai déjà chroniqué en effet l'année dernière. Nous avons donc le héros Roland Britton, qui est un jockey amateur et surtout comptable associé dans un cabinet d'affaires. Parce que ça, c'est très important. Dans son roman Risqué, de 1977. Et puis David Cleveland, enquêteur pour le Jockey Club d'Angleterre, dans le roman La Casaque Noire, lui, de 1973. Et un troisième personnage qui est complètement différent, qui est Martin Hewitt, l'enquêteur et héros de l'auteur Arthur Morrison, dans une nouvelle qui s'appelle The Loss of Sammy Throckett, c'est-à-dire la disparition, je pense, ou la perte. Hein. Disparition, ouais, issue des rivaux de Sherlock Holmes. Et cette aventure m'a été suggérée par Jérôme, qui connaît bien toutes ces aventures anciennes.
C'est donc, pas le maître de cérémonie pour rien.
N'est-ce pas? Ces trois histoires ont en commun donc la disparition de jockeys, qui sont les personnages à la fois adulés et rejetés selon leur arrivée au poteau, en fait.
Hein. Bien sûr.
Bien sûr. Chacun est kidnappé pour une raison différente, mais bien sûr toujours en lien avec de l'argent. Mais bon, je ne vais pas spoiler les intrigues des romans. Ah, je vous laisse la curiosité de les lire pour découvrir qui a fait le coup, ou ce qu'on dit « who done it » en anglais. Et nous allons définir ces trois personnages ont bien l'étoffe de héros pour combattre les esprits malfaisants et calculateurs qui mettent en vie leur danger.
Leur vie en danger, c'est mieux.
Ouais, leur vie en danger, ouais. Je vais vous lire une première... une petite intro. Donc, j'étais étendue, attachée, dans le noir, sur une sorte d'étagère à côté d'un groupe électrogène, glacée, malade et terrifiée. Et où ? Quant à savoir comment j'avais échoué là, eh bien, j'avais quand même une petite idée, jusqu'à un certain point. Je me rappelais assez clairement le début. Jamais je n'oublierai le jeudi 17 mars. Les questions les plus troublantes étaient celles qui demeuraient sans réponse. Pourquoi et qu'allait-il m'arriver ensuite ? Donc ça, c'est l'introduction du narrateur, donc qui est Roland Britton, ce fameux jockey et comptable de profession, qui est kidnappé à l'hippodrome de Cheltenham, juste après une course qu'il a gagnée, la Golden Cup. Il se pose des questions, puisque comme il a gagné la coupe, pourquoi l'avoir kidnappé après ? Si on l'avait kidnappé avant, c'était pour pas qu'il participe. Donc c'est pas là le point. Donc Roland Britton est en charge des comptes de la plupart des jockeys, donc de là où il s'entraîne, des entraîneurs, des propriétaires d'écurie, des commissaires, du jockey club qui côtoient dans le milieu des courses. Comme pour les autres romans, Dick Francis en fait un narrateur victime et du coup enquêteur qui remonte le fil pour démasquer la raison qui le rend indésirable et met sa vie en danger. Donc Dick Francis, par ce livre-là, évoque un thème d'actualité au moment de la sortie de son roman, donc qui date de 77, c'est-à-dire celui de la fraude et de l'évasion fiscale. Moi, c'est ce que j'en ai déduit.
D'accord.
Outre toutes les tribulations et l'aspect dynamique, en fait, du roman. Et cette même année, c'est intéressant parce que, en fait, l'OCDE a fait une recommandation sur l'évasion de la fraude fiscale dans les différents pays qui sont donc dans l'OCDE, dont fait partie le Royaume-Uni à l'époque.
Sûr, ouais.
Donc, il s'agit de demander aux pays des membres d'OCDE de s'allier entre eux pour lutter efficacement contre les pratiques d'évasion et de fraude fiscale qui impliquent des transactions internationales de plus en plus complexes, donc à l'épaule, et difficiles à détecter, et qui, bien entendu, ont une incidence défavorable sur les finances publiques et aussi la concurrence internationale.
Donc d'accord, ça, c'est assez intéressant. C'est le début de l'arrivée de cette thématique qui va être forte ensuite dans les décennies qui vont suivre.
Oui, tout à fait. Alors, il est vrai que Dick Francis, avec sa femme, travaillait beaucoup des sujets avant les romans.
D'accord.
Donc voilà ce que j'ai repéré, en plus du kidnapping du jockey.
Mmh.
Et dans son deuxième roman, La Casaque Noire, David Cleveland, donc lui c'est un enquêteur anglais qui travaille pour le service du Jockey Club, qui recherche en Norvège et en Angleterre un jockey anglais disparu, qui court sur les hippodromes anglais et norvégiens. Le jour de sa disparition, la recette des courses de la journée a été dérobée en même temps. Donc tout de suite, on l'accuse de s'être fait la malle avec la caisse,
d'accord,
bien sûr. Mais pour information, donc c'est intéressant, le roman précise qu'il y a un manque de jockeys norvégiens et donc beaucoup de jockeys anglais partaient de Londres, prenaient l'avion, arrivaient à Oslo, couraient, repartaient. Enfin, c'est très intéressant de voir que déjà à l'époque, l'usage de l'avion était chose courante. Et puis, l'enquêteur met à jour le fait que le jockey est finalement assassiné, donc il ne s'est pas fait la malle, parce qu'il a commis l'indiscrétion d'ouvrir un document stratégique qu'on lui remettait moyennant finance et qui passait en douce en Norvège. D'accord. Donc le roman s'inscrit également dans ce contexte qui est dans l'air du temps, comme il est écrit en 73. Il est dans le contexte de la crise montante pétrolière.
Oui, c'est voilà. Le début du premier choc pétrolier en 72.
Alors moi, j'ai recherché apparemment en 71, ça commençait à émerger.
Ouais, 72, ça explose vraiment.
Et en fait, en 73, l'Angleterre et la Norvège ont des intérêts communs en mer du Nord et des gisements pétrolifères dans leurs eaux territoriales. Donc en fait, ce roman met aussi en fond cette
particularité de ces deux pays qui ont des ressources de pétrole dans leur sous-sol.
Donc finalement, c'est intéressant de voir que les histoires sont dynamiques et se passent dans le contexte qui dans lequel ils baignent à l'époque de l'écriture. Et la dernière histoire est très différente parce qu'elle date aussi un petit peu plus, elle est plus ancienne. Donc c'est Martin Hewitt qui fréquente un pub, le Hare and Hounds, le lièvre et le lévrier, dont le propriétaire a entraîné un jockey qui compte mettre en selle pour la prochaine course. Et ce jockey disparaît mystérieusement alors qu'il était en train de prendre soin de son cheval dans le box. Donc il n'y a aucune trace, malgré un sol boueux, etc. Enfin, tout nous laisse... Enfin, en tout cas, le lecteur ne sait pas ce qui s'est passé. Heureusement, l'esprit cartésien et méthodique de Martin Hewitt va déduire rapidement où est détenu le jockey et la motivation du kidnapping. Donc cette nouvelle, elle est très différente par rapport au roman de Dick Francis, dû à son époque, l'écriture, le mobile aussi. Il s'agit vraiment du classique whodunit avec des intérêts typiquement liés aux courses et aux bookmakers.
Oui, là, on n'a pas de background spécifique.
Non, voilà.
Qui éclairerait.
Donc c'était juste, à chaque fois, les jockeys. Alors, comme les jockeys disparaissent, qu'on les soupçonne d'avoir fait à leur tête ou selon ce qu'ils avaient envie, alors qu'il s'agit de kidnapping, ils sont pas du tout partis de leur plein gré. Ça rejoint l'analyse que j'avais faite sur les mentalités des propriétaires, des entraîneurs et aussi des parieurs qui accusent les jockeys de tous les maux du monde hippique. Voilà.
D'accord. C'est un peu les prolétaires de ce monde-là, quoi, les jockeys.
Ouais. Alors pour la partie textile, ça va être très rapide parce que les textiles sont froissés, troués, sales et souvent ce qui distingue dans les histoires, c'est qu'il manque des choses, notamment des chaussures. Ils n'ont pas de chaussures. Et les victimes kidnappées prennent froid. Et je pense que c'est un thème qui revient vraiment très souvent. Les jockeys sont très sensibles au froid. Et moi, j'en ai déduit que c'est parce que, du coup, le froid te paralyse, en fait, toutes tes sensations.
Ouais.
Et c'est quelque chose qui est très développé chez les gens qui font du cheval, puisque c'est une aide. Tous tes muscles, en fait, sont des aides pour communiquer avec le cheval. Et donc, si t'en es privé, tu as une partie de toi-même qui ne fonctionne plus.
D'accord.
Voilà. Moi, c'est ce que je me suis dit.
Intéressant.
Donc, ils se désensibilisent du monde et du coup, ils sont vraiment très sensibles à ça. En tout cas, dans chaque roman, y compris dans celui de Martin Hewitt, c'est très flagrant qu'ils ont souffert vraiment du froid. Voilà.
Okay.
Alors, moi, j'ai quand même cherché s'il n'y avait pas dans le monde du cheval des enlèvements de jockeys quand même. Je me suis dit, c'est un thème récurrent. Et pas du tout. Ce que j'ai trouvé, en revanche, c'est un cas non résolu en 1983 d'un cheval de valeur, Shergar, qui était un pur sang anglais, qui appartenait à Aga Khan. Et ce cheval a été kidnappé. On n'en a jamais retrouvé la trace. C'était un cheval qui a été un cheval fabuleux, qui cumulait les victoires très, très jeune, en fait. Et donc, il a remporté beaucoup de grands prix entre 80 et 82. Enfin, jusqu'à 83 même. En 83, sa carrière s'arrête et en fait, il devient étalon.
Oui, pour reproduire.
Pour reproduire. Et alors là, c'est hyper lucratif, vraiment.
Ah oui, carrément. C'est une mine d'or sur pattes.
Une mine d'or, tout à fait. En un an, il a assuré 32 naissances auprès de ses dames juments.
Chèrement facturé, voilà. Je pense.
Exactement.
Chaque
ouais, c'est vraiment... en fait, une nuit de 83, un gang armé est arrivé dans l'écurie, a kidnappé le cheval et son groom. Et le cheval valait quand même 10 millions de livres. Alors, kidnapper, c'est très étrange parce que le cheval, il pouvait plus courir vu qu'il était répertorié, ni être étalon, parce que tout est tenu, chaque cheval a un état civil. Donc, en fait, on peut pas se servir de lui si on le vole. Et donc, alors, on a suspecté apparemment l'IRA, sans preuve formelle. Cet enlèvement est resté un mystère. C'est-à-dire, on n'a jamais retrouvé quoi que ce soit. Il y aurait eu un témoignage d'un membre de l'IRA en prison qui aurait indiqué que le cheval était très nerveux dans le van et que pendant le transport, il aurait eu un problème de jambes cassées.
Ah ouais, d'accord.
Et qu'il aurait été abattu, mais en fait, on n'a aucune preuve de rien.
Peut-être été un
rançon
fiasco, quoi,
a été demandée à un moment donné, puis plus de nouvelles non plus du cheval. Donc ce cheval exceptionnel a disparu du radar sans laisser aucune trace. Donc c'est la seule chose que j'ai retrouvée sur le kidnapping.
Eh bien, voilà un sujet pour tout trouver pour un roman, trouver une solution.
Exactement.
À cette énigme de kidnapping de...
Alors...
Non,
cheval, pas par Arsène Lupin, parce qu'il a perdu ses pouvoirs télépathiques.
Que Miss Lehmann va se mettre à écrire prochainement. Parfait.
Voilà.
Eh bien, chers auditeurs, chères auditrices, lupinologues, vampires, détectives, jockeys, bouilleurs de cru, robots, habitants d'autres espaces, eh bien, il est temps de nous quitter. Ne manquez pas de consulter notre podcast à l'adresse habituelle, radio-calade.fr, rubrique émissions culturelles à 23 pas du mystère, où vous retrouverez donc les références des ouvrages dont il a été question, ainsi que des informations complémentaires pour les plus curieux, et où vous pourrez réécouter l'émission autant de fois qu'il vous plaira. Le mois prochain, on en parle un peu du programme du mois prochain.
Allez, on y va.
Eh bien, pour vous prouver que nous ne sommes pas complètement coupés de notre époque, eh bien, nous allons aborder un thème bien actuel, celui de la pollution de l'air.
Et oui.
Mais en l'illustrant par des œuvres moins contemporaines, bien sûr, puisque c'est comme ça, à 23 pas du mystère. Donc on vous donne rendez-vous le mois prochain.
Au mois prochain.
Au mois prochain, chers auditeurs de Calama Radio, passez une bonne fin de journée.
Merci, au revoir.
Calade.
À 23 pas du mystère.
Balade à travers le polar, la science-fiction et l'aventure, hors des sentiers battus.
Calade, ma radio. Sur le 100.9 et radio-calade.fr.